Mais je voudrais aussi résumer l'essentiel de notre foi. C'est la chose la plus simple et la plus compliquée à faire. Quelle est notre foi? Quelle est la foi de l'Église à laquelle nous adhérons? Nous croyons en une vérité. Cette vérité-là, c'est qu'il y a un Dieu unique en trois personnes. Cela nous avait été révélé déjà dans l'Ancien Testament, mais je ne vais pas vous décrire l'Ancien Testament aujourd'hui. Nous croyons en un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand on entend dire qu'ici est le Fils, il ne faut pas croire que le Père est un papa. Il est celui duquel procède, qui suscite, mais de toute éternité, la parole, le Verbe de Dieu, comme un corps qui dit une parole. Et cette deuxième personne de la Trinité, à la fin de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire il y a déjà 2000 ans, est venu sur Terre et a pris un corps, une forme humaine, a pris un corps humain et une intelligence, une volonté humaine. C'est celui que l'on appelle Jésus. Jésus est véritablement Dieu avec le Père et l'Esprit Saint. Et il est devenu aussi, tout en restant Dieu, un homme comme nous sommes tous, de manière à nous faire participer, à nous donner, en prenant notre nature humaine, il nous donne aussi en échange sa nature divine. Et toute la vie chrétienne dans laquelle nous entrons par le baptême, la chrismation et la communion eucharistique, nous entrons là dans ce mystère de transformation de l'homme en petit à petit qui devient assimilé à Dieu, qui devient uni à Dieu. Ce Jésus, donc Dieu homme, a vécu pendant, il y a 2000 ans, en Palestine, en terre d'Israël aujourd'hui, né de la Vierge Marie, sans avoir de père sur terre. L'époux de Marie, Joseph, n'était qu'un époux légal, mais n'a jamais été le père de Jésus. Le père de Jésus, c'est le père éternel. C'est-à-dire le Père, notre Père du ciel. Et sa mère, Marie, on l'appelle la Vierge Marie parce que justement, elle n'a pas connu d'homme qui ait suscité une descendance, et Jésus n'étant pas la descendance de Joseph. La Vierge Marie, la mère de Dieu, est celle qui... que l'on vénère, que l'on n'adore pas, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont Dieu, qu'on n'adore pas, mais que l'on vénère, parce qu'elle a, a choisi librement, par sa volonté libre, elle a choisi de ne jamais avoir aucune pensée, aucun acte, aucun mouvement qui s'oppose à Dieu, ce qu'on appelle le péché. Donc volontairement, elle est restée toujours pure de tout péché, et c'est pour cela que l'on l'appelle plus grande que les chérubins et plus grande que les séraphins. Non pas que les séraphins et les chérubins aient péché, mais je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on vénère la très sainte Mère de Dieu. Ce Jésus, donc, né d'une mère sans père sur terre, mais né du Père, céleste, du Père éternel, ce Jésus a vécu pendant, est né à Bethléem, une ville du sud de la Palestine, Il a grandi dans la maison de sa mère avec son père adoptif Joseph, dans une petite ville du nord de la Palestine qui s'appelle Nazareth. Là, il a vécu en gros une trentaine d'années. Et à la fin de ces 30 années, il a quitté son père adoptif et sa mère pour aller parcourir d'abord la région, le département, si vous voulez, nord de la Palestine, qu'on appelle la Galilée, et puis à la suite des pèlerinages que la loi juive imposait à tous les fidèles d'aller en pèlerinage à Jérusalem, lui-même est descendu à Jérusalem à plusieurs reprises pour aller adorer Dieu dans le temple, parce que les Juifs considéraient qu'il y avait comme ils ne considéraient qu'un seul Dieu. Comme nous-mêmes, ils pensaient ne pouvoir adorer, comme il n'y a qu'un seul Dieu, adorer qu'un dans un seul temple qui se trouvait à Jérusalem. Donc tout le monde devait aller à Jérusalem pour adorer Dieu là-bas. Et puis, dans ce département du nord de la Galilée, qui entoure en quelque sorte un lac, le lac de Tibériade ou le lac de Génézaret, il a choisi, et après avoir quitté donc Nazareth, il a choisi des disciples, les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, ils sont 12, ceux qu'on appelle les 12. Et ces disciples-là, il leur a montré par ses discours, par ses conseils, par les explications qu'il donnait, et par les actes qu'il accomplissait, ce qu'on appelle aujourd'hui des miracles, il leur a montré comment il était Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité, comment il était uni à son Père, et comment il venait dans ce monde pour nous initier à cette vie éternelle, la vie du royaume des cieux. Et pendant 3 ans, il a circulé dans toute la Palestine, dans les 3 départements de la Palestine, la Galilée, la Samarie et la Judée. Il a circulé là et il a, par des miracles, des guérisons, des résurrections, des multiplications de pain, il a montré ce qu'était l'initiation à la vie éternelle. Et en même temps, il a montré ça à des foules, des grandes foules qui le suivaient, mais à ses 12 disciples, à ses 12 apôtres et à 70 autres disciples, un deuxième cercle autour de lui, il a expliqué ses actions. Il a dit, voilà, je fais ça pour ceci et pour cela. Ce que je vous explique là, c'est ce que les apôtres, tout du moins 4 d'entre eux, ont écrit dans des livres après la mort et la résurrection du Christ, qu'ils ont écrit dans des livres pour être un témoignage qui servirait à partir du moment où tous les apôtres seraient morts, mais pour avoir un témoignage écrit de leur vivant. C'est ce qu'on appelle les évangiles. Il y a donc 4 évangiles. L'évangile qui a été écrit par Matthieu, un qui a été écrit par Marc, un qui a été écrit par Luc et un qui a été écrit par Jean. C'est les évangiles dont vous entendez un passage à chaque liturgie et que vous êtes invités évidemment à lire chez vous calmement et à méditer. À la fin de sa vie, Jésus a été tué par les Juifs et par les Romains qui occupaient le pays à ce moment-là. Il a été tué, et pour le tuer, on l'a crucifié, c'est-à-dire on l'a cloué sur une croix. Il est descendu dans ce qu'on appelle le royaume de la mort, ou dans les enfers, si vous voulez, qui est la mort. Et ensuite, le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a repris vie, comme avec son corps, mais sous une autre forme que celui qui était le sien pendant sa vie terrestre, à tel point qu'en apparaissant à des apôtres et à beaucoup d'autres personnes, en leur apparaissant, les gens ne le reconnaissaient pas du premier coup. Il fallait qu'ils s'habituent à sa présence et le reconnaissent à quelques signes. Mais il est ressuscité et il nous a annoncé que nous aussi nous ressusciterions. Et voilà l'essentiel de notre foi. Et voilà la manière dont cette foi nous est communiquée à travers les évangiles. Ensuite, un apôtre tardif, si je puis dire, dont vous entendez parler souvent, saint Paul, a eu la révélation miraculeuse de tout ce qu'avait vécu le Christ et de tout ce qu'avaient vu les 12 autres apôtres. Et cette expérience-là, il l'a écrit dans des lettres qu'il a envoyées dans différentes villes où il y avait déjà des noyaux de communautés chrétiennes pour les exhorter à vivre justement d'une manière chrétienne, c'est-à-dire en fonction de la venue du Sauveur, de la venue du Christ, et en fonction de l'attente du royaume des cieux qui est la nôtre aussi. Ce sont ce que l'on appelle les épîtres, c'est-à-dire des lettres que saint Paul a envoyées et qui nous sont restées, dans lesquelles il explique, dans lesquelles il fait la théologie en quelque sorte, la théologie de ce que le Christ était venu nous apporter et la manière dont il est venu nous l'apporter. Et nous a expliqué les rapports comme ça qui existent entre les hommes et Dieu, entre les hommes et le Christ, et nous a annoncé, nous a expliqué ce que sera notre vie dans le royaume des cieux, la vie éternelle, et comment s'y préparer. Un peu avant, la veille de sa mort, la veille de sa crucifixion, le Christ avait réuni les douze apôtres pour célébrer une fête antique, et toujours vivante, la fête de Pâques, qui évoquait jusqu'à ce jour-là, qui évoquait le passage, Pâques veut dire passage, n'est-ce pas, qui évoquait le passage des Hébreux qui fuyaient l'Égypte, on lit ça dans l'Ancien Testament, qui fuyaient l'Égypte et qui fuyaient les fureurs de Pharaon, qui ont traversé la mer Rouge. Vous avez ça qui est décrit sur les fresques de ce côté-là de notre chapelle, et qui miraculeusement sont passés de l'autre côté de la mer sans se noyer, pour arriver après 40 ans de marche, pèlerinage en quelque sorte, dans le désert du Sinaï, pour arriver dans la terre promise, la terre d'Israël. Donc c'est ça que signifiait la Pâque. Mais alors qu'il allait célébrer la Pâque avec les douze apôtres, le Christ a pris du pain et du vin, il les a bénis et il a dit que ceci, ce pain et ce vin, devenaient son corps et devenaient son sang à laquelle il nous invitait à communier, c'est-à-dire à nous unir. Et c'est le noyau, c'est l'essentiel de ce que nous vivons nous-mêmes à chaque liturgie, celle à laquelle vous venez d'assister. Chaque liturgie est une reprise, pas une imitation, mais une participation à cet acte mystérieux que le Christ a accompli la veille de sa mort, où il nous a initiés à cette Eucharistie, c'est-à-dire à ce pain et vin devenu son corps et son sang pour nous amener à la résurrection. C'est l'essentiel de notre liturgie. Mais en plus, après quelques années du vivant même des apôtres, après la résurrection du Christ, et les apôtres et les fidèles ont reparticipé à la Sainte-Cène, c'est-à-dire à cette liturgie pascale où le Christ avait pris du pain et du vin pour en faire son corps et son sang. Et comme il avait dit, faites ceci en mémoire de moi, toujours on a accompli en mémoire de lui, on a accompli ce mystère. Mais comme les apôtres, comme les premiers chrétiens, pardon, ne pouvaient plus aller, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi tout de suite, mais ne pouvaient plus aller dans le temple ou dans les synagogues étaient des lieux de prière, ils ont autour de cette transformation du pain et du vin, ils ont ajouté des prières, des actes liturgiques que l'on accomplissait en partie dans le temple de Jérusalem et en partie dans les synagogues comme lieu de prière. Et c'est ça qui a été le noyau de notre liturgie. Nous pourrions faire 50 conférences sur les liens entre la liturgie orthodoxe aujourd'hui avec les liturgies du temple ou les lectures et les commentaires des saintes écritures dans les synagogues. Je ne vais pas vous en faire 50 ni m'appesantir aujourd'hui, mais sachez simplement que notre liturgie, c'est le condensé de cela, c'est la réalité. Donc à chaque fois que nous assistons à la liturgie, nous participons avec les apôtres, en communion avec les apôtres, au mystère de la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, et c'est cela qu'on reçoit au moment de la communion, mais nous participons aussi aux prières et à l'adoration de tous les croyants de l'Ancien Testament avec les apôtres, comme ils adoraient dans le temple. Et ceci pour beaucoup d'offices, il n'y a pas que pour la liturgie, mais comme j'ai l'intention de résumer aujourd'hui, je simplifie à l'extrême. Voilà, notre liturgie, c'est ça. Et l'importance pour nous de cette liturgie, c'est précisément cela, ça fait le lien qui nous permet d'assimiler le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire de le faire entrer, de le laisser entrer dans notre âme et de partager sa vie parce que il a partagé la nôtre et nous pouvons partager la sienne. Et puis, un dernier élément que je voudrais vous donner, je reviens à la vie du Christ. Donc, il est mort, crucifié, il ressuscite le troisième jour. Après, pendant 40 jours, il est apparu à de nombreuses personnes, aux apôtres, aux disciples, et à de nombreuses personnes. En même temps que lui, beaucoup d'hommes et de femmes sont ressuscités aussi, sont apparus et ont vécu pendant un certain temps encore, en même temps, pour une vie normale, sur le territoire de la Palestine. Et au bout de 40 jours, le Christ est monté, il a disparu aux yeux des apôtres et il est monté au ciel. Quand on dit le ciel, évidemment, il ne faut pas considérer le firmament. Ce n'est pas le ciel physique où vont les spoutniks ou les astronautes aujourd'hui. Le ciel, c'est un autre état de vie, l'état de vie spirituel. Mais que l'on image, que l'on traduit en forme d'image, comme le ciel qui est inaccessible et pourtant visible d'une certaine manière. Et puis quelques jours après cette ascension, après qu'il ait disparu de la vision oculaire des apôtres, il a envoyé sur terre, il a envoyé son Esprit Saint, c'est-à-dire la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint, qui est venu sur terre et qui a été accordé aux hommes, c'est ce qu'on a fait le jour de la Pentecôte, et qui a été donné aux hommes, que l'on reçoit aussi au moment du baptême et de la chrismation, de manière à insuffler en nous une vie. La chrismation, c'est la vie de Dieu, c'est l'intelligence spirituelle qui nous est donnée en forme de prémices, si vous voulez, comme en forme de graines, si je veux dire, et qui est appelée à croître en nous. Et cette vie nous permet de comprendre et de voir des choses qui sont invisibles aux hommes ou incompréhensibles aux hommes s'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. C'est-à-dire que par la venue de l'Esprit Saint à la chrismation, il nous est donné petit à petit, progressivement, avec toute une éducation, et de découvrir ce qu'est la vie du royaume des cieux et comment on participe déjà aujourd'hui à la vie du royaume des cieux, où est le Christ et où il nous attend. Le Christ, en disparaissant aux yeux des apôtres, n'a pas déserté la terre, il est resté sur terre, mais il est maintenant invisible, et c'est seulement la présence active du Saint-Esprit qui descend dans nos cœurs, que nous recevons au moment du baptême. C'est cette présence du Saint-Esprit qui nous permet de déceler la présence, de discerner, de voir la présence du Christ dans le monde aujourd'hui. Donc il est invisible sous une forme corporelle, mais il est sensible, et une grande part de la vie orthodoxe, de la vie chrétienne, consiste à apprendre à le voir sur terre, à le percevoir dans les événements de la vie, à travers la vie des autres et à l'intérieur de son cœur à soi. Il y a encore évidemment beaucoup à dire. Ça fait 2000 ans que l'Église essaie de le dire. Elle n'a pas encore épuisé le sujet, donc je ne prétends pas évidemment l'épuiser aujourd'hui. Mais sachez que notre foi dans l'Église implique la croyance, l'adhésion à cela, et que les sacrements, notamment du baptême, de la chrismation et de l'Eucharistie, auxquels nous avons participé tout à l'heure, sont le moyen inventé par Dieu de nous permettre de participer, d'entrer dans toute cette transformation et de connaître cette vie divine qui entre en nous et qui nous transforme de petit à petit de manière à ce que nous soyons assimilés à Dieu.